Vous écoutez RMC. RMC, Rotten sans flamme.
And this is Nazon, and still going forward, and Nazon's made space for the shot. Oh yes!
Allô Jérôme.
Le quatrième jour de guerre au Moyen-Orient, cette opération lancée samedi par Israël et les États-Unis face à l'Iran. On a la chance aujourd'hui de recevoir Dukens Nazon, qui est attaquant international haïtien, qui vient de rentrer d'Iran ce matin et qui est déjà dans Rotten sans flamme en studio avec nous, Jérôme.
Salut Dukens.
Salut Dukens.
Bonjour à tous.
Déjà, merci Salut. D'être là. C'est toujours un moment particulier déjà pour nous et surtout pour toi. Les nouvelles, comment tu vas ?
Ben, avant tout, merci de me recevoir sur le plateau. Je vais bien. Je suis très fatigué, secoué par ce voyage très mouvementé.
Le périple.
Ouais, c'est
un... Donc tu peux nous raconter un peu de le périple, t'es parti quand, comment t'as fait pour te retrouver à Paris là.
Je suis parti, ça va faire là peut-être 2 jours et demi, presque 3 jours. J'ai quitté la capitale au moment des bombardements. J'étais dans l'avion, normalement j'étais sur le tarmac, prêt à décoller pour Istanbul. Et là on a dû débarquer de l'avion en urgence. Ils ont dit que l'espace aérien était fermé et que les bombardements commençaient.
Tu l'as senti venir ou non? C'était un choc et une surprise pour toi que comme ça il y a un conflit ouvert en Iran?
À vrai dire, ça fait déjà un bon moment qu'ils sont en train de se chauffer les uns les autres. Mais la veille, j'étais en train d'échanger avec un ami à moi, Virgile Pinson, qui joue en Israël.
Ouais.
Et il commençait à me dire, Dukens, ils sont en train d'ouvrir les bunkers. Il y a beaucoup de mouvements policiers en bas de mon hôtel. Commence à prendre tes dispositions.
C'était les prémices, quoi. Tu sentais qu'il t'alertait que la guerre pouvait commencer.
En fait, il m'alertait, mais il y avait déjà des bruits avant aussi. Les gens nous disaient quitter le pays, ça faisait déjà depuis 1 mois, 3 semaines. Chaque semaine, ça se répétait, c'était vraiment la même chose. Du coup, on s'est dit, ça va être comme la semaine d'avant, il n'y allait rien à voir. Et le lendemain matin, quand je suis dans l'avion, moi je suis assis comme ça, derrière moi, là, j'ai commencé un peu à sentir pourquoi, parce qu'il y avait le proviseur de l'école française qui était derrière, et il y avait des gens de l'ambassade française derrière moi. Là, ils ont commencé à quitter le territoire, je me suis dit, ah, bizarre, on a peut-être quitté au bon moment. Et en fait, lui, il m'envoie un message sur mon Snap et il me dit Dieu, il t'aime. Je dis, comment ça, Dieu, il m'aime? Il me dit, Dieu, il t'aime. T'as quitté au bon moment, là, t'es parti tout pile. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que là, j'entends l'alarme retentir tout de suite là, en Israël. Là. C'était en live.
Ouais.
Et il me dit, ça veut dire. Et là, ils sont en train de nous dire qu'ils ont attaqué l'Iran. Du coup, ils ont fait retentir l'alarme de guerre pour dire, en gros, préparez-vous, là, on vient d'attaquer.
Allez vous cacher, quoi.
Voilà, préparez-vous, là. Voilà, exactement.
Ouais.
Et dès que j'entends son audio, même pas 10 secondes après, là, le commandant de bord, il dit, pas de décollage, hop, annulé.
Ah ouais. Ce qui est fou dans ton histoire, c'est qu'ensuite, tu es rapatrié à Téhéran avec un bus de ton club. Donc, le club, c'est Estegal, le club dans lequel tu joues en Iran. Et le bus, comme ça, récupère différents sportifs qui font partie de ce club. Et là, tu te retrouves au point de départ. Là. Tu te retrouves en plein cœur du conflit et bloqué en Iran.
Exactement. Ensuite, en fait, avant que le minibus prenne en charge les autres joueurs, il faut savoir que ce bus, on l'a attendu à Téhéran pendant approximativement 7 heures. Mais avant de rejoindre Téhéran même, la capitale, j'étais à l'aéroport avec Mounir Ladadji, ancien
joueur du Barça, ouais.
Exact.
International marocain.
Exactement, exactement. J'étais avec Mounir et on a pris un taxi. Enfin, le chef de la sécurité des Seglan nous a pris un taxi pour pouvoir nous ramener à Téhéran, d'abord. Et sur la route, là, on a vu un bombardement là, juste à côté de nous.
Donc t'as vu un missile exploser à côté de toi, centaines de mètres de toi.
Il était là-bas. Je l'ai mis dans ma story sur Snapchat. C'est là où les gens voyaient justement, ils voyaient tous mes déplacements. C'est là où ça a créé de l'engouement et tout. Et
voilà. T'as senti de la peur? T'étais inquiet quand même?
Oui, j'imagine.
En fait, il venait d'exploser là-bas. Mais je me suis dit que bon, peut-être il allait pas en avoir un autre dans la minute qui suit, voilà, sur la route ou quoi. Et à gauche, c'était vraiment une scène de guerre. À droite, il y a ça, il y a la fumée, etc. Et à gauche, toute l'autoroute qui était vraiment bouchée, parce que les gens étaient en train de sortir de Téhéran, mais nous, on était en train de rentrer. Du coup, c'était fluide de notre côté. Mais là-bas, c'était bouché sur des kilomètres et des kilomètres.
Ouais. Ah, vous voyez tous les gens qui commençaient à fuir le pays, quoi.
Exactement, exactement. C'était.
Et tu prends la décision quand, en fait, de quand t'arrives à Téhéran, tu te dis bon bah écoute, maintenant je peux pas rester là, donc.
Bah en fait.
Repartir.
En fait, moi, c'était vraiment un concours de circonstances qui a fait que j'étais là au moment où ça s'est produit, puisque il y avait match la veille.
Ouais.
D'accord. Oui, la veille, il y avait match. Et le coach était censé me libérer parce que je devais venir en France pour faire des papiers pour, justement pour la Coupe du Monde, etc. Et le club était au courant. Et en fait, après l'entraînement, j'étais censé partir. Mais là, le coach, il a dit oui, comme on a gagné la veille, 2 jours libres.
Ouais.
Voilà. Bah en fait, je me suis fait carotte, j'aurais pu partir avant.
D'accord.
Et du coup, je suis resté.
Ouais.
Et j'ai pris mon vol à 10h, comme ça, ça allait me permettre de dormir un peu. J'ai pris mon temps. Mauvais moment.
Bon. D'accord. Et après, raconte-nous la suite, parce que tu as quand même réussi à donc fuir l'Iran, parce que tu es passé par l'Azerbaïdjan. Mais là aussi, c'est toute une histoire, parce que tu n'avais pas le bon passe pour quitter le territoire iranien. Tu as passé la première frontière, mais tu as été bloqué entre deux pays pendant plusieurs heures. Quoi.
Exactement. J'arrive à la frontière azerbaïdjanaise à 4h du matin environ. Et ils ont dit qu'elle devait ouvrir à 8h. Ensuite, on attend 8h. Elle n'ouvre pas. Ils disent problème dans le système. On attend 9h. Elle ouvre. Et quand j'entre, ils parlent avec moi. Ils me mettent bien parce que c'était encore l'Iran. Et il y avait beaucoup de fans d'Esteghlal parce que c'est vraiment un gros club. Ouais, c'est un très gros club.
C'est le PSG iranien, quoi.
Ouais, franchement, c'est vraiment ça. Et en termes, on va dire, de fans, c'est même pire même que le PSG. Si on prend le pays, quoi.
Voilà.
Ouais, c'est énorme, la ferveur là-bas. Et en fait, ils prennent des photos. Ils sont là comme s'il n'y a rien, quoi. Tranquille, voilà, ils prennent des photos et tout.
Donc toi, ça te rassure à ce moment-là?
J'avais l'habitude parce qu'ils sont vraiment partout en fait dans le pays. Ça veut dire que j'étais pas nécessairement rassuré, mais voilà, c'était un jour comme les autres entre guillemets. Ils m'ont fait ressentir ça en tout cas. J'étais pas rassuré, mais j'étais normal. Et après, on a pris des photos et tout. Ils m'ont mis le tampon dans mon passeport. Et lorsqu'ils mettent le tampon dans mon passeport, moi je me dis voilà, j'ai le passeport français. Je vais rejoindre l'Azerbaïdjan. C'est juste là. Tu traverses un pont.
Oui.
Voilà, il y a un petit fleuve et tout. Ouais. Et il y a les forces azerbaïdjanaises là-bas et tout. Voilà.
Tu traverses à pied.
Je traverse à pied, ouais, avec ma valise et mon sac. Je traverse, en plus il faisait froid, j'avais pas de vêtements parce que j'ai dû partir vite.
Ouais, t'étais en short, quoi.
Non, j'étais pas en short.
Avec les chaussures.
J'étais en chemise et tout, il faisait vraiment froid, pluvieux et tout. Du coup, je traverse et quand j'arrive à la frontière d'Azerbaïdjan, ils sont en train de checker mes papiers. Par chance, juste avant de partir, quand j'étais encore avec Mounir en Iran, à l'aéroport, juste après à l'hôtel, le chef de la sécurité d'Esteghlal, il est venu, mais comme je vous ai dit, il avait un téléphone spécial, d'accord. Lui, son téléphone, il marchait.
D'accord.
En fait, il n'y avait plus internet dans tout le pays, mais lui, il avait une puce spéciale, ça s'appelle une white card.
T'as pu prévenir alors ?
J'ai pu prévenir que voilà, il n'y a plus rien. Je vais partir pour approximativement 20 heures, là, je serai plus connecté. J'ai dit ça à ma femme. Et lui, il nous a fait un partage de co. Du coup, j'ai pu dire ça. Et j'ai pu dire à ma femme de prendre un visa en Azerbaïdjan, en express. Il te le délivre en 3 heures.
Ouais.
Elle a pu le faire, c'est un visa express. Elle a pu le faire. Mais sauf que j'allais pas le recevoir, j'avais plus internet. Du coup, 3 heures après, bon, c'est si elle l'a pris, ben, c'est moi et ma chance. Et j'ai pu aussi prendre une eSIM rapidement avec mon téléphone, essayer de l'activer. Et du coup, si je me rapproche de la frontière d'Azerbaïdjan, là, j'aurais pu peut-être capter un peu internet. Du coup, quand je suis arrivé à la frontière là, je prenais du temps, je faisais exprès de parler avec les forces d'Azerbaïdjan et j'ai pu capter internet et télécharger déjà mon visa. Je me suis dit c'est bon, j'ai le visa, j'ai le passeport, je passe.
Je vais passer, ouais.
Ouais. Et là ils me disent non, tu passes pas. Ouais. Ils me disent le code. Et moi je le regarde comme ça, stupéfait. Je lui dis bah j'ai pas de code. Quel code? J'ai le visa et tout. Il me dit non, c'est pas le visa. Il me dit tu repars en Iran. Après moi je suis confus. Je dis oh, je repars. Bah j'ai pas le choix, je repars. Il a pris un ton quand même rude.
Ouais, dur, ouais.
Voilà. Je repars en Iran. Quand j'arrive, j'arrive à la frontière. Eux, ils sont surpris. Ils me regardent, ils me disent qu'est-ce qui se passe et tout. Je leur dis code et tout. Ils me disent quoi? Mais t'as pas de code et tout. Je dis ben, quel code? Personne m'a averti de ça. Ils nous ont dit, vous dirigez-vous vers les frontières d'Azerbaïdjan ou bien de Turquie. Et moi, il faut savoir que j'ai pris celle d'Azerbaïdjan puisque j'avais un vol, en fait, à 6 heures du matin.
Exactement, d'Azerbaïdjan.
Ça veut dire que déjà, comme je suis arrivé, normalement, la frontière ouvre à 8 heures du matin, entre guillemets. on le savait pas. Normalement, elle est ouverte 24 sur 24. Parce que les autres jours après, elle est restée ouverte 24 sur 24.
D'accord.
Comme je suis resté là-bas, j'ai pu le voir. Je suis resté énormément de temps. J'ai pu le voir. Mais, lorsque j'arrive, mon vol, normalement, il était censé être à 6h55 à Bakou. Du coup, comme je suis arrivé à 3h45, j'allais peut-être pouvoir la voir. D'accord? Du coup, vol perdu. Je prends un autre vol à 10h et quelques juste après parce que je me dis que
ça, ouais, ça va se régler.
Ah, voilà, ça va se régler. Ouais. Perdu aussi. Deuxième vol perdu. Excusez-moi, à 13h et quelques perdu. Et quand je reviens à la frontière iranienne, bah là, je leur dis, ben, du coup, il faut que je sorte. Laissez-moi sortir, au moins je vais à l'hôtel. Ou voilà, je fais quelque chose, je vais pas rester là. Voilà, le temps que le code, le temps que je fasse les démarches avec.
Ouais, que tu récupères le code, quoi.
Exactement, avec les ambassades concernées. Et ils me disent, à cause des bombardements, le système, il marche plus. Du coup, ils pouvaient pas annuler le tampon qu'ils m'avaient mis pour pouvoir sortir du pays.
Ouais.
Du coup, ben là, je suis.
Donc, tu te retrouves entre les deux.
Et tu te retrouves dans une zone grise comme ça entre deux pays. On précise d'ailleurs que, heureusement, ton entourage a fait le nécessaire. La communauté haïtienne s'est mobilisée. On peut également remercier l'ambassadrice française en Azerbaïdjan, madame Sophie Lagoud, qui t'a aidé aussi à quitter le pays. Tu es arrivé ce matin. La question, c'est aujourd'hui. Est-ce que tu as des nouvelles de tes coéquipiers sur place? Où est Mounir Al-Adadi, par exemple? Et surtout, tes coéquipiers iraniens, est-ce que tu as des nouvelles d'eux sur ces dernières heures?
Mes coéquipiers iraniens, pas du tout. Pas de nouvelles. Puisque, comme j'ai dit,
il n'y a plus de réseau.
Plus Internet, sauf le chef de la sécurité. Je lui ai écrit, mais il a reçu, il n'a pas répondu. Mounir, je sais qu'il est à Madrid actuellement. Tout à l'heure,
il a pu rentrer aussi.
Ouais, il a pu rentrer, il est rentré avant moi. Mmh. Après, j'ai mon coéquipier aussi, Moussa Djenepo. Lui, c'est vraiment mon frérot, lui. Mmh. Et Moussa, ça m'a fait mal au cœur quand on s'est dit au revoir. Il est parti en Turquie avec la camionnette. Et moi, je pars en Azerbaïdjan. Franchement, ça m'a brisé le cœur. Parce que je savais que lui aussi, il avait pas de visa. Que ce soit déjà en Azerbaïdjan. Avec moi, ça aurait été plus compliqué.
Et il est passé, lui, en Turquie ou?
Il est en Turquie avec eux. Il est parti avec aussi Didier Ndong, qui a évolué notamment à Lorient. Et il était avec Mounir. Mounir, il est passé directement avec son passeport. Parce que c'est un passeport espagnol. Mmh. Didier, il a peiné aussi à passer, mais il est passé aussi juste après Mounir. Il a fait les papiers du Gabon ou quoi. Et Moussa, il a eu énormément de difficultés. Ils ont dû faire intervenir le ministre des Affaires étrangères du Mali, qui envoie une lettre officielle à la Turquie pour pouvoir le libérer. Et il est sorti, je crois, quand ils sont arrivés, déjà eux, je voulais pas faire la route avec eux parce que c'était plus long. Ils ont fait déjà 13 heures de route jusqu'à Tabriz. D'accord. Et après ça, Moussa, je crois qu'il a patienté. Franchement, sans mentir, approximativement 20 heures à la frontière. Et il m'a dit que c'était pas comme moi. Moi encore, c'était une office. Voilà.
Ouais, lui, c'était à la barbare.
Voilà, il m'a dit, lui, c'était une petite maisonnette. Il faisait froid, etc. Et ensuite, lui, il doit aller au Burkina, Guinée, Mali. Ah, et je sais même pas s'il est arrivé là.
Un vrai périple. Écoute, on pense à lui, en tout cas, ton coéquipier. Question très simple. On va parler de la Coupe du Monde dans un instant, mais dans quel état d'esprit t'es aujourd'hui? Est-ce que tu envisages, si jamais la situation se calme, un jour de retourner en Iran, ou est-ce que tu te dis ça y est, c'est terminé, je retournerai plus jouer là-bas dans mon club?
Franchement, là, je sais même pas quoi penser actuellement. Là, je suis juste content d'être sain et sauf. Je vais retrouver ma famille.
Ouais, c'est plus important.
Je suis bien. Après, je prendrai la peine de réfléchir à ça. Après, c'est sûr que je dois faire vite puisque la Coupe du Monde, ça arrive vite. Il faut que je sois en condition.
Alors justement, parce que précisons qu'on a quand même l'attaquant star d'Haïti, Haïti qualifié pour la Coupe du Monde avec un groupe magnifique. Hein, tu as 74 sélections, toi, avec cette sélection haïtienne. Vous avez un groupe sublime, Brésil, Maroc, Écosse. La Coupe du Monde s'annonce belle pour vous. Le premier match face à l'Écosse le 13 juin. Donc ta priorité aujourd'hui, c'est, même si tu es encore dans l'émotion, tu veux retrouver ta famille et c'est tout à fait compréhensible. Tu veux rester performant parce que ton rêve de Coupe du Monde, tu l'as toujours et c'est ça qui te pousse à chercher un nouveau projet.
Bien sûr, c'est quelque chose qui m'anime, c'est le rêve de tout footballeur, c'est le Graal, c'est la Coupe du Monde. Donc, il faut que je sois prêt pour pouvoir représenter au mieux mon pays là-bas.
Bon. Et votre gardien?
Johnny Placide.
Eh oui, c'est vrai, c'est celui de Bastia.
C'est Johnny.
Eh bien sûr,
c'est parce Johnny.
Vous n'avez pas fait un seul match éliminatoire chez vous, je crois, en plus. Hein.
Seule équipe. Ouais. C'est ça, c'est historique.
Tu es un footballeur du monde, toi. Tu es, sauf de chez toi, finalement. C'est quand même frustrant de ne pas faire un match à Haïti, quand même, un match éliminatoire.
Bien sûr, ça fait très mal au cœur, surtout que moi, j'ai eu la chance de pouvoir disputer des matchs au pays. Il y a des gens dans la sélection qui n'ont jamais mis un pied en Haïti.
Eh ouais.
Du coup, ils n'ont pas cette attache-là. Moi, je sais pourquoi, quand je mets cette tunique, je sais pourquoi je me bats. Donc, ça fait vraiment mal. Après, c'est les problèmes qu'il y a actuellement au pays qui font
qu'il y en a aussi. Hein. Il y a 16 000 personnes qui ont été tuées en Haïti, on le précise, depuis 2022, d'après l'ONU. Donc là aussi, la situation est critique en Haïti. Dukens, merci beaucoup pour ton témoignage.
Merci beaucoup.
Un témoignage très fort. On est content de te voir.
Bon courage, surtout pour la suite.
Et on pense à toi. On est derrière toi, d'ailleurs. Il y a plusieurs projets qui te sont proposés ces dernières heures. On espère que tu vas vite retrouver un club pour pouvoir aller disputer la Coupe du Monde avec l'Haïti aux États-Unis. Merci Dukens.
Merci
beaucoup.
Ça vous a plu ? Foncez, écoutez tout de suite l'intégrale de Roten sans flamme.